Fidèle jusqu'à la mort. Chapitre 6. De Pelleret se rencontre. Par une claire nuit de lune, un piéton solitaire avançait lentement le long de Fleet Street, scrutant les façades des maisons, comme s'il cherchait quelque chose. Bien qu'il eût perdu son air de jeunesse, et que l'expression de son visage fût triste et lasse, on reconnaissait facilement en ce voyageur attardé, notre ami Richard Pinson. D'une fenêtre entr'ouverte, juste au-dessus de l'endroit où il était arrivé, s'échappait un chant doux et vague, qui lui était familier. Il le connaissait bien, cet hymne du pèlerin, que tous ceux qui se rendaient en Terre Sainte, chantaient au cours de leur long voyage. La voix, bien qu'assourdie, était si claire, que les paroles, portées par la brise de nuit, parvenaient distinctement aux oreilles de Richard. Il n'y avait pas à s'y méprendre, c'était la voix de Marjorie. Cette voix chérie, ne l'aurait-il pas reconnue entre mille ? Sans hésiter, il souleva le lourd marteau de fer. « Qui va là ?» demanda le vieux portier, encore mal éveillé. « Un ami, un messager de Dame Lovell, qui désire parler si possible à Lady Marnell. » Lorsque le portier entendit le nom de Lovell, il ouvrit hospitalièrement la porte de chêne, et pria Messire Pinson de vouloir bien le suivre jusque, dans la grande salle de réception, aux riches boiseries. Puis, il appela doucement à la porte de la chambre voisine, Demoiselle Alice. Un bruit léger, et Richard entendit la voix d'Alice Jordan, qui disait « Chut, Christophe. L'enfant vient seulement de s'endormir. Ne le réveillez pas. Qu'y a-t-il ? C'est un messager, qui arrive de Lovell, et qui désire parler à Notre-Dame. » À ces nouvelles, Alice entra précipitamment dans le hall. « Ah, Messire Pinson. Est-ce bien vous ? Notre noble maîtresse sera heureuse de vous voir, mais vous arrivez en un jour bien triste. Lady Marnell est-elle en bonne santé ? Hélas ! Elle n'a guère mieux que son fils, car elle a eu de cruels soucis dernièrement. Le bruit court qu'on va lancer contre elle une accusation d'hérésie, et Lord Marnell est très irrité. Que Dieu lui vienne en aide, et la conserve, vous verrez vous-même combien elle a l'air malade. Je vais lui dire que vous êtes là. » Au bout de quelques instants, la porte se rouvrit, et Lady Marnell entra. Était-ce bien là, Marjorie Lovell ? Cette démarche chancelante, ce visage pâle, amaigri, ses yeux cernés qui disaient de longues veilles et des larmes amères, rien de tout cela ne rappelait la jeune fille de jadis. Mais son sourire était toujours le même, et son geste toujours aussi accueillant lorsqu'elle s'avança vers Richard, les deux mains tendues. « Ami si cher, dit-elle, combien je suis heureuse de vous revoir. Arrivez-vous tout droit de Lovell ? Mon père et ma mère sont-ils en bonne santé ? Et Dame Catherine, et Silette, et les servantes ? Et mon vieux lévrier, Baudezer, Eliard, sur le dos duquel nous avons fait tant de promenades ? Et tous mes amis, Sir Ralph Marston, Sir Carève ? Vous demandez trop de questions à la fois, noble dame, répondit Richard avec un triste sourire. Oui, Dame Lovell est en bonne santé, et vous envoie son salut et sa bénédiction. Mais mon père ? Oh, Messire Pinson, mon père ! Elle s'assit, et, cachant son visage entre ses mains, éclata en sanglots, car bien que Richard n'eût pas répondu à sa question, elle avait lu la triste nouvelle sur sa figure. Sir Godefroy Lovell était mort. Il n'avait été malade que 3 jours, et Sir Carève, qui était savant en médecine, avait déclaré que sa fille ne pourrait pas arriver à temps pour le revoir en vie. Dame Lovell était très affectée par la mort de son époux, mais trouvait quelque consolation entre le père André et Richard, qu'elle traitait comme un fils depuis le départ de Marjorie. Le jeune homme aurait désiré, par quelque acte de bravoure, gagner ses éperons de chevalier, mais il ne voulait pas quitter Dame Lovell dans son deuil. « À tout autre moment, dit Marjorie, j'aurais demandé cette faveur pour vous à Lord Marnell. Il vous aurait armé chevalier, mais je ne peux lui faire cette requête tant qu'il est irrité contre moi. » Elle s'informa encore de tous ses vieux amis, et ajouta tristement, « Vous ne m'oubliez donc pas ? Je vous manque un peu. Vous ne saurez jamais combien, » répondit Richard à voix basse. Un silence tomba. Une sorte de contrainte semblait exister entre eux. Pinson prit brusquement son parti et demanda, « Quelle nouvelle dois-je rapporter de vous à la maison, madame ?»« Dame Lovell m'a chargé de m'enquérir de votre santé et de celle de l'enfant. » Je suis chagrin d'apprendre qu'il ne se porte pas bien et quant à vous. » Il eut de nouveau son sourire triste. « Je me porte bien, Messire Pinson, très bien même, » répondit vivement Marjorie. « Je ne puis aller où Christ ne serait pas, et là où il se trouve, je ne puis qu'être heureuse. Quant à l'enfant, voyez par vous-même, » elle le conduisit sans bruit dans la chambre voisine. Le petit Godefroy dormait dans les bras d'Alice. Sa respiration était embarrassée, et son visage enfiévré. Richard le regarda sans rien dire pendant quelques instants, puis il se détourna et suivit Marjorie dans la grande salle. Il refusa les rafraîchissements qu'elle lui offrait. « J'ai soupé, » dit-il, « et dès l'aube, je dois me remettre en route. » Marjorie écrivit une courte lettre à Dame Lovell, et la confia à Richard, puis elle s'assit près de la table, et, d'un geste lassé, appuya sa tête sur sa main. « Je vous en prie, bonne dame, » dit Richard en cherchant par un grand effort à briser la contrainte qui régnait entre eux, « que signifie ce bruit d'hérésie qui s'élève contre vous ?» Marjorie releva la tête. Ses yeux brillaient d'une ardeur soudaine. « Vous souvenez-vous, Richard, du livre de Sir Karel ? Et vous souvenez-vous aussi du sermon de Maître Sastre ? Je n'ai rien oublié. Cela est la cause de tout ce qui m'arrive. Parce que j'ai lu les paroles de Christ, et les aime, parce que j'essaie d'y conformer ma vie suivant mes faibles forces, on va me poursuivre comme hérétique. Et ils iront jusqu'au bout ? Jusqu'au bout ? Répéta Richard en tremblant, car il devinait ce que cela voulait dire. L'idée que Marjorie serait jetée en prison pour longtemps peut-être, lui était insupportable. Et ne rien pouvoir faire pour la sauver était une amertume de plus. « Oui, jusqu'au bout, » dit-elle, tout son visage transfiguré. « Avez-vous oublié que Maître Sastre nous avait demandé si nous suivrions l'agneau le long d'un chemin difficile ? Est-il difficile de le suivre malgré quelques pierres sur notre route ? Non, mon ami, je suis prête à le suivre où qu'il me conduise. » Richard la regardait en silence. Il avait toujours trouvé qu'elle était un ange sur la terre, et il en était plus convaincu que jamais. « Vous connaissez ces choses, messire, n'est-il pas vrai ?» continua Marjorie. « Vous connaissez l'amour de Christ ?»« J'essaie de le connaître, » répondit Pinson d'une voix mal assurée. « J'ai lu le livre de messire Karev, lorsque j'ai vu que vous l'estimiez si haut. Bien souvent nous l'avons étudié ensemble, Karev et moi, lorsque j'allais faire une course dans son voisinage, et il m'a enseigné bien des choses. Mais je ne suis pas aussi avancée que vous l'êtes, Mademoiselle Marjorie, dit-il, employant le nom familier de jadis, je ne connais pas Christ comme vous semblez le connaître. Alors ne relâchez pas votre étreinte jusqu'à ce que vous l'ayez saisi. Ah, qu'importe quand et comment viendra la fin, puisqu'ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Jean 13, 1. Mon ami, vous ne perdez rien si vous possédez l'amour de Christ. S'il vient à vous et vous demande, comme à Pierre, m'aimes-tu plus qu'une fonce-ci ? Que votre réponse soit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jean 21h15. Ah, puissiez-vous tout donner pour Christ ? Celui qui affectionne sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde-ci, la conservera pour la vie éternelle. Jean 12h25. Personne ne perd en échangeant cette vie terrestre contre la vie éternelle. Il ne sera jamais dit qu'on en perde quelque chose en s'attachant à Christ. Richard Pinson dit d'une voix tremblante, « Devons-nous donc tout donner à Christ ? Y a-t-il quelque chose que vous ne puissiez lui sacrifier ? Quelque chose que vous aimiez plus que Christ ? Comment alors ne vous le reprendrait-il pas ? Croyez-moi, ou bien il faudra que votre cœur abandonne cette idole de son plein gré, ou bien il faudra que Christ l'arrache de votre cœur déchiré et brisé. » Et que de tristesse pour celui qui n'a pas de place pour Christ dans son cœur. Richard se pencha vers Marjorie, lui prit la main, et murmura à voix basse, « Il n'y avait qu'une chose, et il me l'a reprise. Marjorie, je vous aimais, j'aurais donné le monde entier pour vous. Et vous trouverez que c'est un pauvre renoncement, quand le cœur ne peut accepter le sacrifice. » Elle détourna la tête, sans répondre, mais il sentit sa main glacée dans la sienne. Il se leva, et elle l'accompagna jusqu'à la porte. Là, sur le seuil, elle lui dit, « Richard, Dieu nous a séparés, et tout ce que Dieu fait est bien fait. C'était nécessaire sans doute. Et si nous nous retrouvons sur le seuil de la cité bienheureuse, je suis bien certaine qu'il nous sera indifférent alors, de ne pas avoir fait toute la route ensemble ici-bas. » Richard baisa la main qu'il tenait dans les siennes, et Lady Marnell se détourna et rentra sans bruit dans la chambre du petit malade. Pinson resta un moment immobile à la place où elle l'avait quitté. « Dieu veuille que nous nous retrouvions, Marjorie, » dit-il à demi-voix. Et il quitta Marnell House. C'est ainsi que se séparèrent Richard Pinson et Marjorie Lovell. Ils ne devaient plus jamais échanger une parole, avant de se revoir dans la cité céleste.